Flavien Neuvy, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des grands spécialistes de l'automobile en France. Vous êtes à la tête de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Bien évidemment, on va revenir sur cette affaire Carlos Ghosn. On en parlait là, à l'instant dans le journal d'Isabelle Millet. Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo à la suite d'une dénonciation au sein du groupe Nissan. Nissan a ensuite mené des investigations en interne et on a découvert, semble-t-il, pour le moment il n'est que soupçonné, mais on a découvert, semble-t-il, qu'il avait déclaré moins de revenus que ce qu'il aurait dû au fisc japonais. On a également découvert que, semble-t-il, il aurait utilisé à des fins personnelles des biens qui sont liés à Nissan, ce qu'on appelle des abus de biens sociaux. Déjà, sans que vous connaissiez finalement plus l'histoire que nous tous, parce que ça a tellement été un tsunami ce matin, qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? C'est-à-dire que ça paraît étonnant, on ne l'imagine pas. Qu'est-ce que vous, en tant que spécialiste de l'automobile, vous imaginez ?
C'est la stupeur en quelque sorte, parce que Carlos Ghosn, c'est quand même un personnage emblématique dans le monde de l'industrie au niveau mondial. C'est quelqu'un qui a eu un parcours exemplaire, qui a hissé l'alliance Renault-Nissan sur la première marche du podium, ce qui n'est pas rien, et quelqu'un qui était tout à fait admiré pour ce qu'il avait fait pour Nissan au Japon. Donc c'est vrai que ça résonne comme un coup de tonnerre parce que
c'est
personne
ne
s'y attendait.
Pas obligatoirement en France, mais au Japon, Carlos Ghosn, c'est une icône. Il y a des mangas, les BD japonaises à son effigie. Déjà, il est polyglotte, il parle japonais, il a redressé Nissan. Et c'est quelqu'un qui est connu par le japonais moyen.
Oui, absolument, parce qu'il faut se souvenir qu'en 1999, quand Renault rentre au capital de Nissan, Nissan est au plus mal. Et c'est lui qui est nommé par Louis Schweitzer, finalement, pour redresser. Il est le patron opérationnel de Nissan et il redresse Nissan. Ça a été difficile, mais il redresse Nissan, il remet Nissan sur les rails. Et quand il prend la tête de Renault, évidemment, il n'a eu depuis, en 2005, de cesse finalement de construire cette alliance et de la renforcer. Mais c'était la clé de voûte de cette alliance absolument atypique dans le monde de l'industrie automobile.
C'est l'homme qui incarne cette alliance. Donc quand on parle d'alliance, c'est Renault, Nissan et s'est rajouté il y a de cela maintenant quelques mois Mitsubishi. Mais c'est un réseau tentaculaire. Est-ce que aujourd'hui on peut se dire que certains ont intérêt, sans vouloir être complotiste, que certains ont intérêt à ce que ça se passe mal finalement?
Ce qu'on sait quand même, c'est que depuis maintenant plusieurs années, les Japonais trouvent que cette alliance n'était pas très équilibrée. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Renault a 43, un peu plus de 43% du capital de Nissan et en contrepartie, Nissan a 15% du capital de Renault sans droit de vote. Et qu'en 2015, l'État français avait fait même une montée au capital de Renault sans trop prévenir les Japonais qui avaient été très vexés de cela. Et donc les Japonais considèrent qu'aujourd'hui, l'alliance n'est pas très équilibrée parce que Nissan vend plus de voitures que Renault et donc du coup, ils veulent rééquilibrer un peu cette alliance. Et donc il y a ce sujet qui est quand même maintenant en discussion depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années.
Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir une opération pour le déstabiliser ?
Je ne peux pas le dire comme ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça ouvre une période d'incertitude pour l'avenir de l'Alliance. Il faut quand même rappeler que l'État français, justement, avait reconduit Carlos Ghosn pour 4 ans en lui demandant le bon de commande qu'il avait, en quelque sorte, c'était de préparer justement sa succession et de faire en sorte que cette Alliance soit, je cite l'expression qui avait été utilisée à l'époque, indétricotable. Et donc, aujourd'hui, se pose effectivement la question de l'avenir de l'Alliance. Qui pourra conduire cette Alliance-là, sachant que le personnage, le portrait robot de celui qui pourrait faire ça, aujourd'hui, on ne l'a pas, parce que pour plaire aux Japonais et aux Français, à l'État français, c'est vraiment un profil très atypique. Carlos Ghosn l'avait, mais il n'y avait que lui.
Voilà, parce que c'est lui qui avait mené à bien cette alliance. Si on en revient justement au cas Renault, on a vu aujourd'hui que l'action a perdu quasiment 9% en bourse, elle a même dévissé un petit peu plus pendant la séance. C'est une déstabilisation totale. Beaucoup disent aujourd'hui, c'est impossible qu'il reste à la tête de Renault. Demain, les administrateurs sont reçus à Bercy. C'est votre sentiment aussi ?
On verra, c'est sûr que c'est un coup dur. On a vu par le passé dans un autre scandale. Ça va être compliqué. Il faut voir ce que donne l'enquête au Japon, mais ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait vu dans le scandale du Dieselgate que le patron de Volkswagen ou d'Audi n'avait pas pu rester très longtemps à la tête de l'entreprise. Donc on verra ce qui se passe. Il faut quand même rappeler que Renault, c'est une entreprise qui a un actionnariat stable, est présent au capital, donc ça, c'est un gage de stabilité. Et que l'entreprise, même si il y a un patron emblématique, elle repose sur ses salariés, sur le conseil d'administration, sur l'équipe de direction. Et que demain matin, Renault continuera à vendre des voitures.
Sûr,
donc il n'y a pas de risque particulier.
Sûrement pas au pire moment, mais à un moment très compliqué. Parce que quand on regarde la situation des grandes marques, Nissan est en difficulté aujourd'hui. Ils ont raté le virage des SUV, ils n'ont pas vraiment de pick-up dans leur gamme américaine, alors que c'est un très très gros vendeur aux US. Donc situation un peu compliquée chez eux. Et puis, Renault est un peu au milieu du chemin. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir réussir la transition de l'électrique, il va falloir réussir la transition de l'hybride. Ça arrive au pire moment pour le groupe, au moment où on change de génération, où les ventes de voitures baissent peut-être un peu durement en France et pour les mois à venir.
En Chine aussi, où Nissan est très présent. Donc effectivement, c'est un moment charnière, sachant qu'on a le sentiment quand même que les belles années pour l'industrie auto sont plutôt derrière nous. Et que les années qui arrivent sont des années qui seront plus compliquées sur le plan commercial, avec des marchés qui pourront se stabiliser, voire baisser un petit peu, et surtout des défis majeurs, la voiture électrique, la voiture autonome, donc ça veut dire des capitaux nécessaires très importants, donc, il va falloir beaucoup investir.
Un sacré capitaine d'industrie pour diriger un groupe aussi tentaculaire, ça n'existe pas hein, je pense dans le monde, il n'y a pas d'exemple.
Non, et c'est vrai que ça nécessite d'avoir une vision claire, beaucoup de capitaux, et dans l'industrie automobile, la taille critique est un enjeu essentiel pour pouvoir amortir justement les coûts d'investissement. Et l'alliance Renault-Nissan a cette taille critique. Elle fait jouer des synergies.
C'est le premier constructeur au monde.
Oui, et donc elle fait des synergies qui sont considérables. Et si demain, effectivement, l'alliance devait être fragilisée, ça fragiliserait beaucoup Renault, évidemment, parce que Renault est plus petite taille. Renault seul, c'est 3 700 000 voitures.
Et il y a une question de patriotisme économique aussi, puisque jusque-là, c'est un Français qui dirigeait le premier groupe automobile au monde. C'est un Français qui a construit tout cela. C'est Renault qui, vu notre prisme purement français, donnait l'impression de diriger un peu l'ensemble. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui chez Renault de cette stature.
Non, et puis c'est vrai que les susceptibilités sont très importantes en la matière.
Il faudra recruter à l'extérieur ?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde de l'industrie automobile, on a vu beaucoup de fusions ratées. Si on prend Daimler, par exemple, avec Chrysler, entre 1997 et 2005, on a bien vu que ça s'est dénoué dans la douleur parce que ça n'avait pas marché, parce que associer deux constructeurs, c'est difficile, mais associer deux constructeurs de pays différents, c'était quasiment mission impossible.
C'est pour ça que Carlos Ghosn disait toujours, l'alliance est finalement le seul modèle qui peut fonctionner puisqu'on respecte les nationalités, on respecte l'identité des marques et on ne fusionne pas.
Absolument, et il faut rajouter, l'alliance n'est le seul modèle qui peut fonctionner avec en plus Carlos Ghosn à sa tête qui connaissait très bien les deux entreprises et qui était très respecté du côté du Japon.
Mais ça veut dire qu'on peut imaginer un effondrement ? On peut imaginer que ça éclate, plus qu'un effondrement, que ça éclate ?
Ça paraît quand même compliqué parce que les enchevêtrements sont très importants. Il y a des Nissan qui sont assemblés dans des usines Renault et donc aujourd'hui...
La Nissan Micra,
bien sûr,
plein, par
exactement,
exemple.
C'est exactement ça. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le Brexit. On se rend compte que pour détricoter quelque chose d'aussi imbriqué, c'est quasiment mission impossible. Donc non, on ne peut pas le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça ouvre une période d'incertitude.
Eh bien, merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Flavien Neuvy qui est à la tête de l'Observatoire CTLM de l'automobile était notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain, 22h.